chanson.
Ou pas.
Des artistes.
Pourquoi
du
pas.
Cinéma.
Peut-être.
Des débats.
Je sais pas.
Des interviews.
Ouais.
Eh bien, tout ça sur radio.esperanza.be.
Ou pas.
En tout cas, un débat, il va y en avoir un tout de suite sur Radio Esperanza. Vous nous écoutez sur le 106.2 autour de Floref sur la bande FM, sinon sur toutes les radios partenaires et sur Internet également. Alors pour le débat aujourd'hui, donc la thématique d'Esperanza, on va construire des ponts contre leurs murs et on va parler justement de créer des ponts. J'aurais préféré de détruire les murs, mais bon... autour des politiques migratoires, tant en Belgique que dans l'Union européenne. C'est un sujet assez brûlant aujourd'hui. L'actualité des derniers jours l'a encore montré également. Et donc, autour de la table, on a Anaïs Ducirey. Bonjour.
Bonjour.
Et donc, tu es chargée...
des questions relatives à l'asile et à la protection internationale.
À côté de toi, il y a Modou. Tu es porte-parole de la Voix des Sans-Papiers à Bruxelles.
Exact. Bonjour.
À côté de toi, le comité de soutien. Charlotte, bonjour.
Ah,
ouais, tu es le comité de soutien.
C'est
ça. Mais tu es également chercheuse.
Chercheuse, oui, sur les politiques de contrôle des frontières à l'ULB.
Et hop, on change de côté de la table. Baïdi, de la Voix des Sans-Papiers également, sur Bruxelles.
Oui, c'est le Bruxelles. Bonjour.
Et Milady, du comité de soutien de Schaerbeek. Alors, quoi, c'est encore une autre... C'est la Voix des Sans-Papiers, mais à Schaerbeek.
Mais en fait, le grand intérêt de la Voix des Sans-Papiers, c'est qu'elle est nomade. Et donc, elle se déplace régulièrement expulsée de bâtiments. Et donc, voilà, comité de soutien qui se crée quand ils sont à Schaerbeek, comité de soutien qui s'est créé quand ils étaient à Molenbeek, etc., etc. Mais finalement, ça devient un comité de soutien général.
Voilà.
Voilà. Je vais pas parler dans le micro.
Ça allait. On t'a entendu. Il n'y a pas de souci. Et donc, ma première question va. Je vais peut-être me tourner alors vers Anaïs. Alors, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui définir la politique migratoire? On va juste parler peut-être au départ de la Belgique.
Ah.
Quelle est-elle?
Il n'y a pas vraiment de politique migratoire. C'est pour ça que c'est difficile d'en parler. Il y a principalement des politiques européennes qu'on suit, que Théo Franken suit avec grand plaisir et donc que la Belgique met en place de plus en plus. Et je crois qu'on peut résumer les politiques migratoires européennes par un mot, c'est l'externalisation. On met nos frontières en dehors de l'Europe pour que le migrant ne touche pas le sol européen. On n'en veut pas ici.
Donc en gros, quand on dit que Theo Franken prend des décisions complètement ineptes par rapport aux migrants, on peut se dédouaner en disant « Ah ben non, c'est pas lui, c'est l'Europe ».
Non, absolument pas, parce qu'il y a toujours un pouvoir de transposition. C'est principalement par directive qu'on fonctionne, en tout cas à l'heure actuelle, puisqu'on parle beaucoup des énormes projets de transposition des directives qu'on a appelés les projets mammouths. Et il y a un énorme pouvoir par rapport à ce qu'on va transposer et ce qu'on ne va pas transposer. Il y a toujours la possibilité de garder les normes qui sont les plus favorables, qui ne sont systématiquement pas gardées par le gouvernement belge. Et puis, il y a aussi la possibilité de ne pas prendre certaines normes, soit d'aller dans c'est large, parce que les directives sont très, très vagues, et donc il faut les interpréter, et puis il faut les préciser, et systématiquement la Belgique les précise de façon particulièrement stricte et contre, et stigmatisante par rapport à la migration, aux migrants, à tout étranger en fait.
Dans quel sens elle les stigmatise ?
Le migrant est un abuseur. Il est d'abord vu comme quelqu'un qui abuse du système, qui vient ici parce qu'il veut profiter de l'aide sociale, ce qui n'est absolument pas le cas d'ailleurs, on pourra en discuter, mais qui est vu comme quelqu'un qui va abuser et qui va devoir prouver qu'en fait il ne vient pas pour abuser, mais qu'il y a des réelles raisons à son déplacement. Dans la plupart des projets, on en parle vraiment et on le dit, hein, que c'est pour éviter les abus du migrant. Voilà, donc...
C'est stigmatisant, en effet.
Ça l'est.
Oui. Alors, au niveau de la Voix des Sans-Papiers, donc là, je me retourne vers l'autre côté de la table. Est-ce que cette stigmatisation, vous la ressentez peut-être au quotidien? Parce qu'on parle donc là d'une procédure qui est stigmatisante. Est-ce que déjà, à ce niveau-là, vous l'avez ressenti en arrivant?
Moi, je peux dire oui, parce que via ce que VSP a vécu depuis un moment, surtout durant cette dernière année, qu'on a vécu, par exemple, qu'on a fait 6 à 7 déménagements en une année, je me dis que là, il y a un problème, quoi. De fait que, par exemple, à chaque fois qu'il y a un procès contre nous, c'est vite fait et on est toujours expulsé. Donc, de fait qu'il n'y a pas un soutien au niveau de l'administration concernant ce problème. Donc, c'est un problème qui n'a jamais été débattu ouvertement. Donc là, nous, je peux dire qu'on le sent ouvertement.
Comme Odou l'a dit, on le sent surtout les sans-papiers. Ces dernières années, on ressent une chasse qui est menée contre les sans-papiers. Parce que la voix des sans-papiers même, on a vu les conséquences. Parce que quand on était à Molenbeek, à notre première occupation, là on a été expulsés, 14 de nos camarades ont été expulsés.
Ils ont été hors du bâtiment, mais aussi hors de Belgique.
Hors de Belgique, dans leur pays respectif. Le seul motif qu'ils avaient fait, c'est qu'ils n'avaient pas les bons papiers. Nous, on quitte nos pays, on vient, c'est pour chercher refuge. Personne ne quitte son pays par gaieté de cœur. C'est parce qu'il y a des problèmes chez nous. Et chacun a un problème qui est différent de l'autre. Et on arrive ici, tu dois introduire une demande d'asile. Et c'est un truc que tu dois faire pendant 5 ou 6 heures de temps. On te pose des questions, on repose des questions. Tu ne dois pas faire d'erreur. Et tu sens que tout est mis pour qu'on ne te donne pas les papiers. Et là, tu te retrouves débouté de l'asile et tu es sans papier, tu n'as pas le droit de travailler. Tu ne peux pas aller à l'école, ni faire de formation, tu ne peux pas te soigner. Et tout est fait pour vous expulser, alors que nous, ce qu'on cherche, c'est vivre dignement comme tout le monde. Avoir les papiers, pouvoir travailler, pouvoir s'intégrer, payer les impôts et avoir une vie...
Une vie normale, une vie entre normale, guillemets. Ouais. Et justement, je pense qu'on parle très souvent de ce... De quand... Alors, on va... Je vais arrêter, 2 minutes, poum. On va faire un tri d'abord, parce qu'on parle... je crois qu'au niveau vocabulaire aussi, ou de définition, on parle beaucoup de réfugiés, de migrants, de sans-papiers, sans vraiment savoir quelles sont les différences, ou s'il y a des différences, entre ces différents vocables. Est-ce qu'on peut les utiliser tous les trois, tous les quatre, ou tous les... Est-ce que ce sont des synonymes ou est-ce que il faut faire une différence et ne pas se tromper quand on utilise le mot migrant, quand on utilise le mot réfugié, quand on utilise le mot sans-papiers? Parce que je sais que c'est quelque chose qui crée souvent la confusion. Ou alors je suis complètement à côté de la plaque, mais
non,
j'ai déjà
tout,
posé cette question
tout.
Plein de fois.
Ce sont des mots qui sont vraiment différents, effectivement. C'est pas commettre une erreur, mais c'est ne pas comprendre le système dans lequel on vit. Un migrant, c'est quelqu'un qui quitte une région ou un pays. Donc il y a des migrants internes, ils ont simplement quitté la région dans laquelle ils se trouvent, ou alors des migrants internationaux et qui quittent leur pays. Donc toute personne qui quitte son pays est un migrant. Quand nous, on part s'installer dans un autre pays, nous sommes des migrants. À l'heure actuelle, il y a une espèce de stigmatisation du migrant avec beaucoup de préjugés à l'intérieur, mais nous sommes tous des migrants quand nous quittons notre pays ou la région dans laquelle on vit. Un demandeur d'asile, ensuite, est une personne qui arrive dans un pays et demande à obtenir la protection de ce pays parce qu'il y a un risque, il a des craintes par rapport à une persécution. Et un réfugié, c'est un demandeur d'asile qui a obtenu le statut de réfugié. S'il ne l'obtient pas, la personne reçoit un ordre de quitter le territoire et si elle n'est pas expulsée, elle devient sans papier. Ce n'est pas la seule cause pour devenir sans papier, mais c'en est une des causes.
Oui, Charlotte ?
Oui. Je pense que, en tout cas d'un point de vue militant et d'un point de vue de soutien aux personnes réfugiées, aux personnes sans papiers, ne sont pas des catégories qui nous aident beaucoup dans la mesure où ça reste quand même des catégories administratives, donc qui émanent de l'État. Elles n'existent pas en nature, puisque a priori je pense que toute personne qui se déplace, c'est un voyageur déjà de 1. Donc ce sont des catégories qui sont créées par l'État pour permettre de filtrer, de trier et de définir en bout de course qui est légitime à la migration ou pas. Et je pense que c'est
stigmatisant en fait.
C'est très stigmatisant et c'est une des difficultés qu'on fait face, à laquelle on fait face, avec ce gouvernement, c'est que Théo Franken a fait une espèce de chantage comme ça, où il a fait semblant, on est bien d'accord qu'il a fait semblant, de bien vouloir accueillir des réfugiés qu'il considère comme légitimes. Et la contrepartie, c'est justement d'intensifier la chasse aux sans-papiers et aux personnes migrantes, aux voyageurs, aux exilés que lui estime illégitimes. Donc c'est son orientation, c'est l'orientation qu'il a annoncée dès la crise des réfugiés, la soi-disant crise des réfugiés de l'été 2015, et c'est celle qui porte au niveau européen, et c'est celle qui transparaît du dernier sommet sur la migration de La Valette, par exemple. Voilà, donc d'un point de vue militant, je pense que effectivement, les personnes qui peuvent prétendre au statut de réfugié, les personnes qui n'y prétendent plus, sont pas dans les mêmes procédures, c'est pas la même temporalité, c'est pas le même état d'esprit, c'est pas la même subjectivité, mais je crois qu'il faut être prudent quand on joue avec ces catégories. Moi, je favoriserais le terme exilé, qui, voilà, toute personne migrante qui a dû quitter son pays pour des raisons X ou Y, que ce soit la guerre ou simplement des aspirations, et de toute façon aliéné, a dû partir d'une certaine manière, c'est un exilé.
Voilà. Vous êtes d'accord, vous, avec...
exilé.
Oui, oui. Pardon. Vous êtes d'accord, vous, avec ce terme-là? Je ne veux pas créer le bazar dans le comité de soutien à la voix des sans-papiers.
On ne s'est pas concerté avant. C'est...
Non, mais justement, je me demande du coup...
Bon, on est d'accord d'un point, mais c'est juste qu'il faut savoir aussi les choses. Par exemple, quand on parle de demandeurs d'asile, la plupart, ce que nous avons remarqué, la plupart des demandeurs d'asile deviennent à la fin des sans-papiers. Donc, c'est toujours dans le même lot. Et est-ce que même Franken fait une différence entre le sans-papier et le demandeur d'asile? De moi, à peu près, ils sont un peu, à peu près, ils subissent la même traitance. Parce que récemment, ce qu'on a vu au parc Maximilien en est une preuve.
On va peut-être rappeler ce qui vient de se passer au parc Maximilien. C'est une bonne idée parce qu'on parle beaucoup ici de tout ce qui se passe. Mais finalement, au niveau de l'actualité, on est un peu décentré. Donc, on peut rappeler ce qui s'est passé au parc Maximilien à Bruxelles.
Ouais, parce qu'en fait, il y a deux jours, il y a la police qui a débarqué avec des matraques vers 4h du matin, 5h, pour ramasser toutes les personnes qui étaient sur place et confisquer tout leur matériel. Leurs sacs de couchage, leurs bottes et autres.
Enfin, juste pour ajouter que la police a dit on confisque tout et on vous ramène tout. Ce qu'ils font régulièrement, ce n'est pas la première rafle. Hein. On en est, je pense, à une dizaine là, sur 6 mois. Il y a 500 personnes tous les jours, 500 personnes tous les jours qui ont vraiment besoin d'être entendues, regardées, soignées, etc., qui sont au parc Maximilien. Et voilà, et leurs affaires ont été confisquées. Et les gens qui s'occupent du ravitaillement ont suivi les endroits où Bruxelles Propreté est allé emmener les sacs de couchage et nous retrouver que c'était dans une décharge, quoi. Donc voilà. Et après, il y a Bruxelles Propreté qui passe et qui va retirer les déchets, etc., pour que le parc Maximilien soit de nouveau d'une esthétique fabuleuse. Voilà. Mais les gens reviennent.
Mais surtout, qu'est-ce que j'ai vu, qu'il y a une directive, une loi ou quelque chose qui interdit les tentes et les couvertures dans le parc Maximilien et que c'était qu'ils ont utilisé cette raison-là pour pouvoir justement faire d'expulser finalement chaque jour.
En fait, c'est une loi qui a lieu dans tous les parcs. On n'a pas le droit de poser une seule tente au parc Josaphat. Enfin, tu fais un pique-nique avec tes gamins, tu mets pas une tente au parc Josaphat.
D'accord, oui. Voilà. Vu comme ça.
Mais évidemment, mais voilà, on en est à cette fameuse marge de manœuvre sur les lois, donc.
Tu voulais rajouter
Non, je suis tout à fait d'accord. J'approuvais.
Voilà, parenthèse faite, donc ce qui se passe au parc Maximilien. Et donc, oui, Mélanie.
Parce que c'est le moment, en fait, c'est de dire que si vous êtes à Bruxelles en ce moment et que vous voulez éviter des rafles, il y a moyen, en fait, réellement, d'aller en tant que citoyen qui est intéressé, sensibilisé à cette question, d'aller à 5h, 6h du matin là-bas directement. Et en fait, si pas d'empêcher la rafle, parce que c'est très compliqué d'être confronté aux répressions policières quand on n'est pas habitué. Après, au moment quand on commence à les voir, on a la violence qui monte en soi et on arrive à le faire. Mais en tout cas, de rester là et de filmer. Et en fait, les gens qui veulent porter plainte contre les répressions policières, les sans-papiers, les réfugiés, ont besoin de preuves vraiment matérielles. Donc il ne faut pas hésiter à y aller, même à 100 mètres, et d'aller filmer ce qui se passe. et après de s'adresser à la Ligue des droits de l'homme ou aux gens qui sont sur place et vraiment de leur dire voilà, j'ai une preuve, je suis là, j'ai vu, j'ai témoigné et je peux témoigner et on peut tous porter plainte contre la police en tant que témoin et on peut aussi aller à l'observatoire de la police qui est l'Obspol, qui est un des endroits de la Ligue des droits de l'homme et porter plainte là aussi et c'est indépendant de la police.
Ah bah ça c'est bon à savoir parce que...
Donc il faut jamais hésiter en fait.
Voilà. Donc voilà, mais donc l'appel est lancé, donc il faut aller tôt le matin, parce que c'est toujours tôt le matin que ça se passe, et ça rappelle une sombre période de l'histoire. C'est donc quand les gens dorment, quand ils sont les plus vulnérables, qu'on les rafle. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots à ce niveau-là. Et donc, tu disais, Maudou, parce que du coup, je t'ai interrompu pour revenir sur le parc Maximilien. Et donc, la question, c'était... par rapport justement au terme, hein, c'était ça, hein, au terme qu'on utilisait, quels sont les termes, comment vous définissez en fait
Parce que nous, en fait, le terme sans papier, c'est pas un terme qu'on a utilisé pour nous-mêmes. C'est juste un terme, une étiquette qu'on nous a collée. Parce que nous, on vient d'autres pays, on a des papiers, on a été identifié des pays de notre pays d'origine. Donc, sans papier, ça n'existe pas pour moi. C'est juste une personne à titre illégal dans un pays. Et je pense que concernant cette question, c'est la Belgique qui a mis ses consignes par rapport à la personne soi-disant que vous êtes dans ce territoire. Vous n'avez pas un titre de séjour, donc vous êtes illégal. Et je me dis qu'il n'y a personne qui est illégal. Du moment où le Belge, le Français ou bien autre peut venir chez nous, par exemple à Dakar ou bien en Mauritanie, faire ses vacances tranquilles, sans qu'on lui demande même un titre de séjour ni son passeport, je pense que ça devait être pareil partout. Parce qu'il y a à peine quelques mois, on était parti à l'Office des étrangers pour faire une manifestation parce qu'ils avaient attrapé deux de nos camarades. On avait demandé d'être reçu par Ousmane, qui est le directeur de l'Office. On dit bon, qu'il n'est pas là, qu'il est parti en Tunisie. Et voilà, donc nous on est là, on veut le voir. Là, il est parti tranquille dans nos pays d'Afrique. Là, on ne le demande rien, il vient faire sa vacance tranquille. Et nous, on n'a même pas la possibilité de circuler tranquille dans ce pays. Et sur quelle base? Parce qu'on vient d'Afrique ou bien il y a un autre problème qu'on ne veut pas dire clairement. Mm-hmm. De ce fait que nous, on dit que la politique migratoire belge est xénophobe, raciste même.
C'est vraiment à ce point-là, c'est parce que parfois on a l'impression qu'on vit dans un pays où justement c'est plus facile en Belgique qu'ailleurs. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que justement en Belgique il y a peut-être du fait de Theo Franken, je ne sais pas si c'est uniquement du fait que lui a ce portefeuille ministériel dans sa poche. Est-ce que c'est un pays où c'est plus facile que dans d'autres pays européens d'accéder au territoire et au papier, alors au papier voulu dans le territoire, au bon papier, on va dire.
Non, pas nécessairement. Bon, Theo Franken, voilà, c'est le secrétaire d'État à la migration. Il avait un programme très chargé et il fait ce qu'il a dit qu'il faisait, ce qu'il allait faire.
C'est-à-dire ?
Beaucoup de choses qui sont les dramatiques. Il met vraiment en place une politique qui est de pas de migrants arrivent sur notre territoire. Si les migrants arrivent sur le territoire, on fait des procédures très rapides pour essayer de déterminer si ce sont, selon lui, des personnes qui ont un droit à la protection ou pas, même si à l'heure actuelle c'est toujours le CGRA qui est une institution indépendante, enfin une administration indépendante qui doit trancher les questions par rapport à la protection. On voit qu'il y a de plus en plus de pertes de cette indépendance pour en faveur de l'Office des étrangers et il y a de plus en plus en fait tout ce qui peut être mis en place pour empêcher la personne de rester sur le territoire, tout ce qui peut être mis en place pour accélérer une expulsion, tout ce qui peut être mis en place pour détenir des personnes, est mis en place en Belgique. Donc non, la vie en Belgique n'est absolument pas facile, mais elle n'est pas dans les autres pays européens non plus. La politique européenne est dramatique au niveau de la migration.
Ce qu'on appelle cette Europe forteresse.
Tout à fait. Donc l'Europe a construit des murs. sur les voies qui étaient à l'époque plus sûres, donc les voies qui étaient utilisées par les migrants pour atteindre l'Europe. Ils ont compris qu'ils passaient par là, ils ont construit des murs pour les bloquer. Et puis maintenant, ils voient qu'ils passent quand même, ça les ennuie, et donc ils essayent de trouver d'autres solutions pour pouvoir les bloquer. Et alors les solutions, c'est remplacer des politiques de sauvetage dans la mer Méditerranée par des Frontex qui font de la surveillance et qui empêchent les bateaux de passer. C'est de la destruction de bateaux, c'est empêcher que les personnes obtiennent des bateaux pneumatiques. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de créer des hotspots en Italie et en Grèce pour que les personnes soient détenues là-bas et que là-bas, il y a une espèce de centre de tri entre le bon migrant, celui dont on pense qu'il aura des chances d'obtenir le statut, et puis le mauvais migrant, celui qu'on estime qu'il sera très probablement un migrant économique, ce qui est très mal vu, et donc qu'on va expulser le plus rapidement possible.
Voilà. C'est... en fait, ça donne la nausée parce que, je ne sais pas, il y a quelques temps, on a dit plus jamais ça. Et en fait, on est occupé à faire la même chose, mais de façon vachement plus insidieuse, beaucoup plus insidieuse. Et en fait, on crée une exclusion totale qui est, qui donne la nausée. Alors, avant de tous vomir sur la table, nous allons peut-être passer un petit morceau de musique. Elida Almeida qui jouera ce soir sur la scène Alpha à 20h30. C'est bien ça. Merci Leslie. Leslie qui va d'ailleurs nous faire aussi un petit topo cinéma en rapport avec le débat actuel.
Mais topo, c'est un bien grand mot. Non, mais je vous entendais parler, c'est vraiment assez fascinant pour ne pas vomir sur la table tout de suite, comme tu disais, Debs. Ce qui me questionne beaucoup aussi, oui, c'est justement le rapport bizarre, cette espèce de nuance un peu trouble qu'a l'Union européenne par rapport à son discours, par rapport à tout ça. Et il y a un film justement qui va être projeté ce soir au cinéma, donc si vous êtes sur le festival dans la Grange, et c'est un peu le coup de cœur de la programmation du programmateur Jean-Baptiste Dumont qui s'occupe de sélectionner des documentaires. Ça s'appelle Stranger in Paradise, et en fait le concept est assez intéressant. C'est un docu-fiction en fait, et c'est un groupe de réfugiés qui se retrouve dans une petite île, mais déjà en Europe, on ne précise pas laquelle, et en fait ils vont subir entre guillemets trois discours d'intégration, donc on va les accueillir, et là noter les guillemets radiophoniques, et voilà, et d'une façon très politique de droite, une façon un peu plus soft on va dire, et puis une façon très à gauche, et donc trois fois trois discours, et trois discours très différents par rapport à voilà comment on accueille ces gens qui viennent sur ce territoire. Donc si le sujet vous intéresse autant que nous, ça se passe ce soir à 20h15 à la Grange à Floreffe.
Merci Leslie. Quelqu'un l'a vu ce film déjà? Ah bah tout le monde va aller le voir. Hop, ouais. Il y aura interro surprise après. Et on revient donc, on continue sur ce débat sur les politiques migratoires, mais c'est vrai qu'on va au-delà, se parler rien que de ça, parce qu'il y a aussi tout ce qu'on en dit, et ce qu'on en dit, c'est le terme qu'on entend très 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 souvent, dont on oublie d'ailleurs la deuxième partie, cette fameuse phrase qui dégoûte de plus en plus de gens, et heureusement, c'est « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde », n'est-ce pas Anaïs ?
Oui, tout à fait. C'est un des arguments qui est donné quand on a des discussions par rapport à la migration. Il faut savoir qu'on n'accueille absolument pas toute la misère du monde, puisque la migration se fait beaucoup plus entre des pays de même niveau de développement qu'entre les pays appelés du Sud et les pays appelés du Nord. Désolée pour les termes. Donc non, on n'accueille pas toute la misère du monde. Et ensuite, quand on regarde le nombre de personnes déplacées dans le monde en raison de conflits, il y en a plus de 65 millions. En 2015, il y en avait plus de 65 millions selon le HCR. 24 millions et demi quittaient leur territoire. Le reste se déplaçait simplement de région en région. Dans ces 24 millions et demi, 86% se trouvent dans les pays limitrophes, donc Turquie, Liban et compagnie, et absolument pas en Europe. Et en Belgique, donc on parle sans arrêt d'invasion, en Belgique, en 2015, on avait un peu plus de 45 000 demandes d'asile. Et en 2016, suite à ces fameuses procédures d'externalisation et notamment à l'accord UE-Turquie, on avait un peu plus de 18 000 demandes d'asile. Donc ça fait 2 demandeurs d'asile pour 10 000 habitants en Belgique. C'est un peu difficile de parler d'invasion quand on entend ce genre de chiffres, je pense.
Mais alors pourquoi est-ce qu'on nous fait peur comme ça ?
Bien, on entend souvent parler d'invasion, qu'on est envahi, mais il y a parmi les pays qui accueillent plus de réfugiés, les 10 premiers, il n'y a pas un pays européen. Et puis on attendait que les Européens, on est envahi par les migrants, ils viennent pour profiter de notre situation. Mais là n'est pas la question, mais qu'est-ce qui les pousse à venir ? Plutôt, qu'est-ce qui pousse ces gens à venir ? Moi, je viens de l'Afrique. En Afrique, non, on ne fabrique pas des armes. Mais partout en Afrique, il y a des guerres. Ils viennent chez nous, ils font des guerres, ils placent des dictateurs. Et à la fin, ils s'étonnent que les gens prennent la mer. Si les gens prennent la mer, c'est parce que la terre, elle est plus sûre. Ils vont prendre les navires, aller chercher les réfugiés ailleurs. C'est pour ça qu'on quitte nos pays. Mais dire que non, l'Europe, ils sont là pour profiter, non, pas du tout.
Ça permet une certaine... Oui, Charlotte.
Non, je voulais dire, je pense qu'en termes de migration, de discours sur la migration et de pratiques politiques migratoires, ce à quoi on assiste, c'est une grande victoire idéologique de l'extrême droite par rapport à il y a 30 ans. Cette histoire d'invasion, donc cette peur larvée d'un, de ce qu'ils appellent le grand retournement, c'est-à-dire ce serait des populations noires, musulmanes ou en tout cas porteuses d'une culture différente qui viendraient remplacer les populations européennes. Donc tout ça, c'est des mythes qui émanent de l'extrême droite. La pratique d'enfermement des étrangers, c'était une idée de l'extrême droite à la base. Ça n'a pas toujours existé. Ça, c'est une pratique qui a cours depuis les années 80 en Europe. On assiste aussi, on parlait de stigmatisation tout à l'heure, mais il n'y a pas que au niveau économique et social, ce qu'on assiste aussi de plus en plus à une stigmatisation culturelle, une instrumentalisation de la condition de la femme en Europe contre les réfugiés, et en tout cas contre les personnes migrantes, et aussi la stigmatisation et l'amalgame migrant-terroriste. Voilà, donc tout ça, je pense que ça fait partie d'une large victoire idéologique de l'extrême droite. Ce sont des choses qui se sont normalisées dans le discours politique, notamment avec l'aide de Nicolas Sarkozy en son temps, etc., etc. Mais la Belgique n'est pas en reste. Voilà.
Est-ce que donc on est dans une société qui se replie encore plus sur elle-même, alors qu'on a l'impression d'une mondialisation, d'ouverture énorme et d'une population, donc là je parle même plus de politique, hein, est-ce que vous ressentez ça dans la voix des sans-papiers, dans les collectifs, dans le comité de soutien, au CIRE, aussi au niveau de la population, donc des personnes même, des citoyens, un repli, donc comme si tous ces discours fonctionnaient et qu'il y avait un réel repli, ou est-ce que justement... on peut se dire qu'il y a peut-être justement des mouvements citoyens qui prennent le pas. Ou est-ce qu'il y a un peu des deux ? Parce que je crois que ma question était vachement longue, finalement. Est-ce qu'on assiste à un repli sur soi de la population ? C'est plus court.
Je pense qu'en concernant cette question, Franken a gagné une partie. Parce que du moment où il a réussi à faire implanter sa propre politique, qui est une politique que tout le monde connaît, parce qu'on le subit à tout le temps, d'autant plus qu'il a réussi aussi à semer la peur à travers les médias et autres, et qu'il arrive à tout moment faire voter des lois qui passent sans objection visible. Et de ce fait qu'il y a une partie de la population qui se base juste sur ce qu'ils reçoivent des médias et autres. Donc certes, il y a une autre partie qui est un peu plus curieuse, qui essaie de creuser pour savoir exactement est-ce que ça c'est la réalité ou autre, ou bien essaie de voir la question en clair. C'est quoi un sans-papier ? Dans quel but ils sont là, et essayer de comprendre c'est quoi cette personne. Parce qu'en fait, s'ils essaient de savoir qui est un sans-papier, il vit comment, d'où il est venu, comment il est venu, c'est quoi sa civilisation, essayer de comprendre la personne en quelque sorte. Je pense que si on arrive à continuer sur cette lancée, c'est le problème de la sensibilisation qui se pose actuellement. Donc si la population arrive à être sensibilisée, je pense qu'il y aura une grande victoire par rapport à cette politique que Franken est en train de mettre sur le terrain. C'est juste que c'est une question qui est assez large, parce que sensibiliser les gens aussi, ce n'est pas aussi facile que cela. Donc il y a pas mal de soutien, il y a pas mal d'associations qui jouent de grands rôles sur cela, mais ça reste beaucoup à faire aussi.
Est-ce que vous pensez justement qu'il y a une sorte de déshumanisation de vous, des personnes sans papier, des personnes demandeuses d'asile, réfugiées, et qu'on englobe sous un terme qui, en fait, on parle de migrants, et qu'on déshumanise totalement. On parle du problème, de la crise des migrants, de la crise des réfugiés, on parle d'invasion, justement. Et quand tu parles, justement, Modou, de dire qu'on s'intéresse à vous, qu'on s'intéresse à d'où vous venez, est-ce que, justement, les médias, pas tout ça, les médias ne font pas ce travail de déshumanisation en parlant d'un phénomène sans parler de personne. Est-ce qu'il y a ce phénomène-là qui joue aussi ?
Oui, ça joue d'un côté, parce que, par exemple, du moment où, quand on nous considère, ils ne parlent plus de la personne, ils parlent des chiffres, des numéros, donc on est plus, je peux le dire, de la marchandise. Ils ne parlent plus de titres humains, et là, ça joue parfaitement. Donc, de ce fait qu'il y a cette sorte de déshumanisation,
Déshumanisation.
Donc, qu'on est en train de subir d'un côté. Et les médias aussi jouent un grand rôle. Parce que, par exemple, nous, on n'a pas un grand accès à ces médias pour pouvoir véhiculer nos messages, pour pouvoir nous faire connaître. Donc, l'administration a plus la possibilité de faire passer leurs messages, et comme je viens de le dire, les gens ne peuvent pas avoir d'autres infos que ceux qui reçoivent. Donc je pense que il y a beaucoup à faire sur ce plan.
Alors, on entend aussi régulièrement dans la population, même dans les médias, que donc il y a certains qui a un certain nombre de critères pour pouvoir avoir accès au territoire et aux papiers. Alors, quels sont ces critères ? Parce qu'on a parfois, on se demande un peu si c'est s'il y a des critères objectifs comme une sorte de grille d'analyse qui va permettre de dire objectivement oui, telle personne a droit à rentrer sur le territoire, à avoir des papiers. Non, cette personne ne remplit pas, elle n'a pas d'assez bons points.
Mais c'est quelque chose d'assez vaste parce qu'on peut avoir des papiers de différentes façons, ce qui sont assez restreintes en Europe, puisque les voies sûres et légales que tout le monde demande, en tout cas tout le monde associatif, n'existent pas à l'heure actuelle ou sont très peu développées. Donc pour pouvoir arriver et obtenir des papiers ici, soit on vient des bons pays, soit si on vient des pays qui ne le permettent pas, il existe la qualité de réfugié politique, le regroupement familial... Et c'est tout.
Et donc les bons pays et les mauvais pays. Alors là, c'est bah, les bons pays, quoi. C'est comme la France.
Voilà, c'est les pays européens d'accord. Et puis les pays dans lesquels le PIB est assez important, oui. Et puis il y a les pays. On se dit ah non, si la personne vient sur notre territoire, c'est certainement pas pour nous rapporter de l'argent. Et donc il y a toute une politique qui est mise en place pour que ces personnes-là n'aient pas d'accès sûr, n'aient pas d'accès légal à notre territoire.
Ça, c'est le critère objectif.
Non, à partir du moment où ils sont sur les territoires, il y a la Convention de Genève. Si la personne introduit une demande d'asile, et seulement si elle introduit une demande d'asile, l'État est obligé de les laisser sur le territoire pendant toute la procédure de la demande d'asile et jusqu'à l'issue de celle-ci, en ce compris le degré d'appel. Mais laisser sur le territoire ne veut pas dire ne pas détenir. Donc ça, c'est ce qui est mis de plus en plus en place en Belgique, c'est que le demandeur d'asile, quand il dépose sa demande d'asile, va directement être mis en centre fermé. Comme ça, il n'y a plus de difficulté si sa demande est déboutée. On l'expulse, puisqu'il est déjà en centre fermé. Et donc, il y a des critères de plus en plus élargis. Et dans le nouveau projet de loi qui va bientôt être voté en plénière, qui a déjà été voté en commission, on remarque que tout demandeur d'asile pourra être, à partir de cette loi, tout demandeur d'asile pourra être détenu dès qu'il aura déposé une demande d'asile, puisque les critères sont extrêmement larges. Donc, ça c'est pour la détention, c'est pas pour obtenir les documents, mais pour obtenir les documents, la personne doit pouvoir prouver, donc le statut de réfugié en tout cas, la personne doit pouvoir prouver qu'il existe une crainte réelle qu'elle soit persécutée. C'est vraiment la Convention de Genève. Et après, c'est à la personne d'apporter la preuve de cela. Donc si la personne n'a pas de document qui le prouve, elle obtiendra généralement une décision du CGRA qui dira ben, la personne ne nous a pas convaincus puisqu'elle n'avait pas de document. Donc on voit que le système est vraiment fait pour que les personnes qui puissent obtenir des documents sont des personnes qui se sont dit à un moment dans leur pays « Bon, ben moi je crois que là j'ai une réelle crainte, je vais prendre mes papiers, je vais d'abord aller chercher les preuves, j'aurai déjà accès à l'administration pour leur demander tous ces petits documents et puis je vais prendre l'avion jusque la Belgique et là j'introduirai ma demande et j'aurai toutes les preuves à leur déposer pour obtenir le statut de réfugié. »
C'est comme ça dans la réalité.
Oui, c'est un peu pareil. Parce que souvent, quand il y a une guerre chez vous, parce que quand tu fuis, tu ne prends rien avec toi. Mais arrivé, tu introduis une demande, on va te demander des papiers. Qu'est-ce qui t'a fait fuir chez toi ? Qu'est-ce qui t'a fait fuir chez toi ? Quels sont les problèmes que tu as rencontrés ? Et là, tu dois être cohérent à ce que tu dis. Et ils ne se rendent pas compte que t'as des problèmes et tout, que tu es venu pour... Tu ne sais même pas comment ça marche, cette demande d'asile, c'est des auditions de 6 heures, 7 heures de temps où tu es devant. 6 heures.
D'affilée ?
Souvent 6, oui, 6 heures, temps, 7 heures.
Ils ont beaucoup de questions alors.
Oui, beaucoup de questions et souvent c'est les mêmes questions qu'ils répètent, les mêmes questions pour que tu te trompes et comme ça ils pourront dire que tu avais dit ici la première fois et cette fois-ci tu as dit temps. C'est une raison pour eux de te donner déjà la réponse négative.
Et c'est légal, ça, d'interroger comme ça des personnes pendant 6 à 7 heures ?
Mais c'est ce qui se passe à l'Office des étrangers.
Est-ce que c'est légal de détenir une personne sans qu'elle ait accès à un juge et qui n'a en plus commis aucun
acte? En fait, il y a plein de questions qui se posent. Donc là, déjà, 6 à 7 heures. Donc le fait d'introduire une demande, on enferme aussi. Ça s'appelle quand même de l'enfermement arbitraire, qui est quand même condamné par la Déclaration des droits de l'homme, me semble-t-il. Je ne sais pas quel article, mais bon. Il me semble vraiment qu'on ne détient pas arbitrairement des personnes enfermées. Et donc là, 6 à 7 heures. Donc en fait, on a très peu de chances de réussir un interrogatoire. On peut parler d'interrogatoire. C'est le bon mot. Il y a très peu de personnes. Moi-même, si je vais demain à l'Office des étrangers et que je subis ces 6 à 7 heures, je peux être exclue de mon territoire. Parce qu'en fait, personne ne peut tenir...
Le vrai problème, tu viens, tu introduis une demande, on te met au centre, et là, tu peux rester des mois sans qu'on t'appelle pour venir faire l'interview. Et là, pendant le temps, tu ne peux pas raconter comment ça s'est passé. Normalement, tu peux oublier des dates, et là, si tu te trompes, ils vont te dire, la première fois, tu avais dit tant, et cette fois-ci, tu as dit tant. Ça leur donne raison déjà de te dire que vous êtes rejeté.
J'avais entendu un Afghan qui expliquait que dans son interrogatoire, on lui avait demandé, mais tout au long de au moins 3 fois, quelles étaient les radios qu'il captait chez lui, donc dans le fin fond de l'Afghanistan. Et juste aussi pour pouvoir noter, ah bah tiens, tantôt t'avais dit qu'il y avait celle-là et là tu ne l'as plus dite, donc pour dire, bah voilà, donc tu t'es trompé. Parfois c'est sur un détail en fait qu'on peut débouter quelqu'un.
Oui, exactement, parce que en fait, c'est pour cela que nous on ne parle plus de critères. Parce que c'est une question qui est assez floue. On parle plus de quotas de ce pays. Parce qu'on peut rencontrer une personne qui nous raconte son histoire. Tu peux rencontrer une autre personne qui te raconte une autre histoire plus pire que ça. Et le premier, il n'obtient rien, soit disant qu'il ne rentre pas dans les critères. Mais la personne qui a plus subi, dans son pays et qui vient ici pour demander l'asile, là, on ne l'accorde pas, on lui donne un négatif. Soit disant qu'il ne les a pas convaincus. Mais fusionne par exemple la façon dont se passent les interrogatoires. Mais est-ce qu'il y a assez de chances pour cette personne de réussir de... Non. Donc c'est juste qu'ils ont mis une politique qui est assez restreinte pour ces personnes. De ce fait que c'est toujours la question de quota qui se pose. Ok, on a atteint le quota, donc toutes les personnes qui suivent... Il faut le donner négatif et il faut les faire quitter le pays. Et quelle que soit la condition, la personne quittera. Parce que récemment, nous, on l'a subi. Il y a un de nos amis qui a été dans un centre fermé. On a essayé de l'expulser une fois, mais une deuxième fois, ça a été trop violent même. On l'a cassé ses côtes pour le ramener au pays. On l'a mis dans l'avion évanoui. Et il n'y a personne... Il l'a déclaré, il n'en a parlé, mais il n'y a personne qui a voulu le prendre au sérieux, soit en disant que non, ils t'ont ramené correctement. On a essayé d'en parler avec l'Office des étrangers, mais il n'y a rien qui a été fait. Soit en disant que les policiers ont respecté les normes. Donc, voilà. En ce moment, est-ce qu'on pourra parler de droit et d'illégalité? Du moment où on nous considère comme des illégaux. Et il n'y a aucun droit qui a été acquis pour les sans-papiers. Vous êtes illégaux, vous êtes sans papier, donc c'est comme si on n'existe pas dans ce pays en quelque sorte. Donc de ce fait qu'on n'a aucun droit et tout ce qu'on subit, c'est normal qu'on le subit parce qu'on est sans papier. Donc on ne peut plus parler d'humanité comme tout à l'heure.
Ça, c'est clair. Et donc justement, qu'est-ce que en tant que citoyen, on peut faire? Donc, outre aller filmer au parc Maximilien. En tant que citoyen, est-ce que... Bon, déjà, il faut éduquer les jeunes générations. Je pense que ça, c'est la chose la plus importante parce que c'est eux qui feront les dirigeants de demain. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, nous, en tant que citoyens, on peut faire? C'est facile, hein, mais c'est... Voilà. Après, s'informer, oui, c'est... Il le faut, dès qu'il y a des manifestations, c'est y assister, j'imagine, que ça peut encore jouer, mais à part aller voter, quel est encore le pouvoir du citoyen aujourd'hui pour justement faire reconnaître les sans-papiers en tant que citoyen à part entière également?
Je pense que c'est une question qui est assez large, mais on peut juste citer quelques points. Parce que par exemple, les citoyens, ce qui peut être simple, ne pas avoir peur de l'étranger, ne pas le voir comme un... une personne qui est là pour juste profiter de l'administration, profiter du bienfait du pays. Non, parce que la personne qui est là, il y a pas mal qui sont venus avec leur propre bagage. Ils viennent dans des pays civilisés. Il y a pas mal de personnes qui sont bien instruites, qui ont des métiers et tout. Donc, il faut les accepter telles qu'elles sont. Il y a des personnes qui ont besoin d'aide. On a des personnes qui sont malades. On a des enfants. Ils ont besoin d'aller à l'école. Mais donc, du moment où on les facilite ces choses, je pense que c'est déjà un grand pas. Et être ouvert, les sans-papiers sont comme tout le monde. Les accepter comme leurs frères et leurs sœurs. Je pense que ça, c'est le plus important pour nous.
Déjà la reconnaissance.
Ouais.
Quelqu'un d'autre?
Je pense que... Bon, effectivement, on a parlé à plusieurs reprises de l'invisibilisation des personnes sans papiers migrantes et aussi des lois qui les entourent. En fait, je pense qu'une grande partie de la problématique, c'est effectivement du fait que tout ça est très, très obscur et que si on ne va pas chercher d'informations, personne ne va la donner sur un plateau, l'info. Ça, c'est déjà une chose. Mais l'invisibilisation, elle n'est pas que là, elle n'est pas que dans le discours médiatique non plus, elle est aussi, également dans la pratique. C'est-à-dire que les personnes sans papiers sont poussées dans la clandestinité, dans le sens où elles sont obligées de vivre cachées, de travailler cachées, qui s'exposent à des très grands risques quand ils sont dehors. Et donc les initiatives comme celle de la Voix des sans-papiers, qui sont des collectifs de personnes qui décident au final de reprendre en main leur vie, ce qu'on peut faire en tant que citoyen, c'est les appuyer, parce que ce sont eux et elles, quand ils s'organisent, qui font exploser à la lumière toutes les contradictions et toutes les apories de cette politique. Donc c'est effectivement venir à des manifestations, mais je pense que ça peut aussi s'organiser un peu plus localement. On a eu l'exemple du comité de Skarbek dont Emeline a parlé tout à l'heure. C'est voilà, au niveau local, est-ce qu'il n'y a pas des sans-papiers dans les communes? Il y a une campagne à ce sujet-là de CNAPD, je pense, qui est en marche, commune hospitalière, donc pour CNCD, pardon, excusez-moi, pour favoriser des conditions d'existence minimale au niveau local. Donc soutenir au niveau local, apporter un soutien même matériel, tout en sachant que ça participe d'une dynamique politique. Je pense que les sans-papiers sont pas là pour, ils demandent pas à être nourris, ils demandent à être soutenus politiquement dans leurs revendications, en tout cas quand ils s'organisent. Donc il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour soutenir le mouvement au quotidien, au-delà des manifestations. Rentrer en contact, tu parlais, tu vois, Maudou, d'arrêter d'avoir peur des étrangers. Je pense que le meilleur moyen d'arrêter d'avoir peur, c'est de rentrer en contact et d'être là, d'essayer d'être là dans la mesure du possible, à leur côté.
Voilà. Des dates, apparemment, j'aime bien, il a mis l'idée à côté de moi, je l'entends, et puis elle n'a pas le micro. Et donc je répète bêtement ce qu'elle dit, des dates.
Bêtement. Ben non, on peut parler de dates, des événements qui sont à la fois, on va dire, ouais, c'est du sociopolitique, comme j'aime dire, c'est-à-dire que c'est un endroit où on se rencontre, et donc à la Voix des sans-papiers, qui pour l'instant, pour une fois, peut habiter dans un bâtiment... sans être, entre guillemets, obligé de se cacher. Donc ils sont avenue d'Oderghem, la Voie des sans-papiers Bruxelles. Avenue d'Oderghem 269 à Etterbeek, par un bâtiment réquisitionné par le bourgmestre, jusqu'au 14 septembre. Et donc il y a des événements, il faut aller sur la page Facebook, entre autres, de la Voie des sans-papiers Bruxelles et voir ce qui se passe. Et puis il y a aussi des assemblées générales, et je trouve que c'est des endroits intéressants. Donc les assemblées générales du collectif même, où là, ben, voilà, c'est le collectif qui se rencontre et qui s'entend et qui cherche... des endroits d'entente et d'organisation, mais aussi des assemblées générales ouvertes à des personnes qui veulent venir entendre et écouter. Et il y en a une mercredi prochain, le 9 août, à 20h. Et donc toute personne intéressée de savoir qui sont ces fameux sans-papiers peuvent venir mercredi prochain. Et même l'après-midi, il y a un ciné-goûté pour les enfants, voilà. Tu vas le répéter, Dabzou?
C'était ça. Non, j'avais ça sous les yeux, je dis « Ah, il faut absolument le dire ouais. ». Deux mercredis dédiés aux enfants, en fait, à la nouvelle occupation d'Etterbeek, donc avenue de Dorghem 269. Donc c'est les 9 et 16 août, donc c'est avant l'AG, en fait. Projection d'un film à 15h, puis goûter solidaire à 16h30, puis second film à 17h15. Et voilà, avec des mamans, des papas, des voisins, des enfants et tout ça. C'était ça.
En fait, moi, je vais juste rajouter que les sans-papiers sont des personnes qui sont bien organisées. Parce que, par exemple, nous faisons partie du collectif de la coordination des sans-papiers. Là, actuellement, il y a des projets qui sont en cours parce que, par exemple, il y a la caravane des sans-papiers qui est en train de sillonner toute la Belgique afin de sensibiliser les gens par rapport à cette question. Au moins pour essayer de rencontrer dans chaque commune les habitants pour les expliquer c'est quoi un sans-papier, c'est quoi sa vie, afin qu'on puisse nous reconnaître dans ce pays. Et c'est ce que nous demandons.
Et on va essayer de faire ça en radio plus souvent, donc on l'a fait aujourd'hui sur Radio Esperanza. Et voilà, après il y a beaucoup de radios partout en Wallonie et à Bruxelles, et des radios associatives qui sont justement, qui veulent justement pouvoir aussi donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour cela. On serait très heureux de vous accueillir tous, hein, le CIRE, le comité de la Voix des Sans-Papiers, la Voix des Sans-Papiers tout court. Et voilà, donc il y a aussi un journal, le journal des Sans-Papiers, qui est disponible ici sur Esperanza, j'imagine, mais ailleurs aussi. À SOS Migrants, par exemple. Je répète toujours ce que Milady me dit. Eh bien voilà, ben, on va accueillir bientôt le prochain bloc d'une décharge, je pense. On parlait justement du parc Maximilien où les tentes et les sacs de couchage se retrouvent à la décharge, se retrouvent donc dans le bloc suivant. J'imagine qu'ils vont en parler, c'est Ludo et Aurore. Alors merci à Anaïs, Modouf, Charlotte, Baïdi et Milady pour ce débat. Merci à Pascal, à la technique et à l'intervention de Leslie. Vous allez donc tout de suite retrouver le bloc La Décharge toujours sur Radio Esperanza. Très belle soirée à vous et merci beaucoup pour votre participation.
Merci beaucoup.